la plupart des groupes vraiment bien, vraiment pertinents et qui ont amené quelque chose dans l'histoire du rock ou de la pop, eh ben, ils viennent tous des écoles d'art, en fait.
Combien de larmes pour remplir la piscine? Une nuit en septembre, pas loin de Saint-Tropez, je rêvais que la mer et moi dans la piscine, nous faisions des enfants que nous aurions rêvés.
Puis, au parallèle aux Beaux-Arts, j'étais quand même beaucoup dans le studio de son, je faisais de la musique, donc...
Dans les écoles d'art, il y a des modes, il y a des moules aussi. Il faut, les directeurs doivent rendre des comptes.
Ouais, mon projet de vie, c'était effectivement plutôt la peinture.
Bah, la peinture, c'est pas très populaire, hein, comme médium, on va dire. La musique, c'est beaucoup plus populaire.
Je me suis dit, merde, c'est la chose la plus cinématographique que tu as créée.
France Culture. La série musicale. Zoé Sfez.
Bonjour et bienvenue dans la série musicale version légèrement raccourcie, une émission qui reste néanmoins toujours libre de toutes les substances, de tous les récits, émission arty, émission ludique ce dimanche. Bienvenue. Épisode Art School Musician ce dimanche, un épisode consacré aux musiciens issus des écoles d'art, musiciens et musiciennes, car en ce début d'année 2023, une chose nous frappe, les albums les plus attendus, ceux de Flavien Berger ou de Johann Papakonstantinou en France, viennent en fait d'artistes qui sont plasticiens de formation. Alors on pourrait, sans doute on fera d'ailleurs une émission, des émissions, sur ces musiciens et musiciennes qui, par ailleurs, pratiquent d'autres formes d'art, la peinture, les arts plastiques, ou à l'inverse d'ailleurs, une émission sur les grands peintres, les grands plasticiens qui ont eu une vocation, voire même parfois une carrière musicale, vous auriez des surprises. De Gainsbourg à Ingres, force est de constater que les deux formes d'art se sont de tout temps mélangées, mais il est à noter que depuis les années 60, la jeune scène pop, rock, les groupes qui se sont montrés les plus créatifs et dont l'influence est parfois la plus durable, les plus innovants, se sont formés souvent non pas dans des écoles de musique, mais bien dans des écoles d'art, d'art plastique, d'architecture, de graphisme. Alors ces groupes, ces musiciens, ces musiciennes font-ils de la musique comme une continuation de leur formation initiale ou plutôt contre elle? Qu'est-ce que la musique leur permet que l'art auquel ils s'étaient formés ne leur permettait pas? Ont-ils pu conserver un lien avec cette formation initiale ou au contraire, a-t-elle été engloutie par le succès notamment dans les grandes formations pop de Talking Heads à PR2B, petit tour d'horizon absolument pas exhaustif et comme toujours très subjectif de ces art school groups aux musiciens.
Te croiser là, dans la foule et dans la joie. Je fais comme si je te voyais pas. C'est peut-être la dernière fois. Je n'ai jamais vraiment compris ton visage. Geste secret, quand tout s'éteint, quand vient le soir, plus rien après, ton étreinte de la mémoire. Je n'ai jamais vraiment compris ton visage. m'approche, tu me fais peur. Là, je ne suis que spectateur. Mais j'imagine que viendra l'heure de t'abandonner mon cœur. Quelle vie m'attend juste après toi? Je cherche mais je ne sais pas. Je saurai un jour et d'ici là, je ne donne pas ma langue au chat.
D'ici là, le nouveau titre de Flavien Berger, dont le nouvel album est paru en mars avec un très beau clip signé ici Robin Lachenal, comme une forme de voyage mémoriel défaillant, extrêmement puissant, qui fait écho à ce refrain. Je n'ai jamais vraiment compris ton visage, un visage qui reste flou tout au long de ce clip. Flavien Berger qu'on avait découvert avec son premier album, sorte de diamant brut noir, que fut Léviathan, un disque très cohérent, porteur d'une sorte d'architecture basé sur des motifs récurrents qui s'appuient toujours hein, sur une électro à la fois clinique et hyper réconfortante. Album, tout comme les concerts de Flavien Berger, qui sont conçus comme des prestations scéniques, comme une forme de voyage où la pénombre, le flou, reviennent comme des ritournelles structurantes. Et tout cela grâce aux interventions régulières des premiers collègues, des premiers camarades de Flavien Berger, qui sont en réalité tous des graphistes. Flavien Berger, 5 ans avant l'apparition de son premier album, était surtout le fondateur d'un collectif de graphistes qui s'appelle Cine. Car avant d'être musicien, ou en même temps qu'il était musicien, Flavien Berger était surtout graphiste. Peut-être même pourrait-on dire qu'il est musicien parce qu'il a été graphiste. Il a été formé aux ateliers de Sèvres. Il a étudié dans la plus prestigieuse école de graphisme français, l'ENSI, où ils fondent donc ce collectif et s'inscrit donc dans une tradition plus vaste du graphisme, le graphisme comme approche du monde. Et sa musique, surtout, il faut le dire, dans son premier album, s'en ressent. Le Léviathan, en tant qu'album et en tant que performance sonore, se présente comme un seul et même objet qui offre de multiples facettes. Flavien Berger est-il graphiste? Pour lui, non. Aujourd'hui, je m'entoure de designers et de designeuses pour envelopper la musique que je produis, notamment à travers l'attention portée à la scène scénographie très importante chez Flavien Berger, mais je ne suis pas designer. Flavien Berger n'est absolument pas le seul à connaître ce parcours. Il s'inscrit en fait dans une longue lignée de musiciens, essentiellement dans le rock ou dans la pop, qui sont venus à la musique, par ou contre une formation de plasticien ou de cinéaste assez solide. Alors on pense bien sûr à ces anecdotes qu'on connaît parfois tous sur les titans de la pop sauvés par des études d'art avant d'exploser comme grande idole. C'est le cas par exemple de John Lennon, sauvé de l'école traditionnelle où il avait des notes catastrophiques par son passage dans un lycée d'art plastique en Angleterre où il rencontre Stuart Townsend avec qui il va fonder les Beatles et sa femme qui le soutient dans toute sa vie. Sans cette école d'art, John Lennon n'aurait pas existé. Ou encore Freddie Mercury qui, comme Flavien Berger, fut graphiste avant de chanter à la Graphic Design School of Illingworth, qui, on le verra, a aussi formé beaucoup d'autres musiciens qu'on entendra. Et certainement, cette formation de graphiste n'est absolument pas anodine dans l'évolution de Queen. C'est Freddie Mercury qui a designé pas mal de pochettes d'albums du groupe. Et sans doute, l'ambition opératique de sa musique vient-elle de cette approche plus globale de l'art. S'il n'est pas le seul à voir cette carrière musicale comme une espèce de continuation naturelle de sa formation, c'est le cas aussi d'un jeune homme comme Brian Eno, qui lorsqu'il produit en 1970 le morceau de 7 minutes que nous allons entendre, vient à peine d'être diplômé de l'école des Beaux-Arts de Winchester, école qui a fondamentalement changé sa vie. Thank you. C'est un court-métrage de Malcolm LeGrise, court-métrage expérimental de 1970 qui reprend une forme de boucle visuelle en la modifiant très légèrement à chaque fois qu'elle repasse. Ce petit court-métrage de jeune artiste, c'est le tout jeune Brian Eno qui en signe la bande originale. C'est l'une des premières œuvres musicales pour laquelle il est crédité. L'année précédente, il est sorti diplômé de la Winchester School of Art à Saint-Joseph College. On est évidemment en Angleterre. C'est une école qui a vraiment changé sa vie, puisque Brian Eno était un lycéen très malheureux, avec les pires notes possibles, qui s'inscrit à un cours de beaux-arts destiné surtout à lui faire explorer les nouveaux médias, car la technologie l'intéresse, ses notes remontent. C'est à Winchester qu'il va rencontrer un professeur qui est peintre, absolument pas musicien, mais qui change sa vie, qui s'intéresse à son approche, Tom Phillips. Il s'appelle, c'est la première personne à saisir l'idée même que Brian Eno puisse avoir une vision. L'une des premières œuvres, un des premiers travaux pratiques qu'il réalise avec Phillips est une installation baptisée Piano Tennis Piano, où il collectionne, il amasse toute une série de vieux pianos qu'il dénude et qu'il vient frapper avec une balle de tennis. C'est une performance, mais Eno y découvre le pouvoir de l'idée même d'une création sonore qui ne serait pas liée à une pratique véritablement instrumentale. Il découvre surtout, pendant ses études à Winchester, Brian Eno, l'utilisation de l'enregistreur qui va devenir son principal outil de travail. C'est Tom Phillips toujours qui va pousser Brian Eno à collaborer avec le Scratch Orchestra, ce qui va littéralement lancer sa carrière musicale. La même année d'ailleurs, toujours à Winchester, Brian Eno a assisté à un cours de celui qui va devenir le guitariste des Who, Peter Townsend, qui est lui aussi passé par cette école et par le cursus de design de Healing Arts, comme Freddie Mercury. À l'époque, il est déjà musicien, mais surtout, il donne des cours dans différentes universités pour expliquer le courant de l'auto-destructive art, théorie artistique, mais aussi politique, préconisée par l'artiste et activiste allemand Gustav Metzger. C'est là que j'ai compris, dit Brian Eno, que je pouvais être un vrai musicien sans jamais maîtriser d'instrument. Brian Eno, à qui on doit beaucoup, qui doit beaucoup donc à cette formation initiale en art, à qui on doit la découverte de l'un des autres grands groupes les plus influents des années 70 et 80, lui aussi pure production d'école d'art. Écoutez. Tell yourself
same as it ever was. 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 Yourself, where does that highway go to? And you may ask yourself, am I right? Am I wrong? And you may say to yourself, my God, what have I done?
Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground. Into the blue again, into the silent water. Under the rocks and stones, there is water underground. Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground. Into the blue again, after the money's gone. Once in a lifetime, water flowing underground.
Same as it ever
was. Vous retrouvez avec une belle maison, avec une belle femme et vous demandez « Mais qu'est-ce que je fais là ?» Once in a Lifetime, l'un des titres qu'on aime le plus, des merveilleux Talking Heads que vous connaissez certainement pour leur Psycho Killer. Au début des années 70, c'est dans une école d'art que les trois têtes pensantes de ce groupe, Chris Frantz, Martina Weymouth, surnommée Tina Weymouth, et l'inénarrable David Byrne, se rencontrent à la Rhode Island School of Design. C'est encore une école de design de la côte est des États-Unis qui va donner beaucoup de groupes importants à l'histoire du rock et de la pop. En l'occurrence ici, tout se passe dans les années 70. Trois graphistes designers qui sont très sensibles en fait aux signes du temps. Dans ce clip, par exemple, celui de Once in a Lifetime, on a un impact visuel très fort, un vrai travail multimédia qui va faire la renommée du groupe tout au long de sa très riche et très longue carrière. Groupe dont on estime que son influence est déterminante. C'est l'un de ces groupes qui va faire la transition entre le post-punk et la new wave avec cette alliance absolument géniale et toujours aussi efficace d'un son très clinique, un son justement qui tend à traduire le côté désabusé de cette fin des années 70 et de ce début des années 80, allié à une funk extraordinairement opérante. C'est en fouillant dans un guide TV qu'un ami du groupe trouve le nom de Talking Heads, qui évoque ces têtes parlantes, c'est-à-dire les speakerines et autres présentateurs que l'on ne voit qu'en forme de tronc à la télévision et qui semblent emblématiques de cette image qui définit une époque froide, pleine de désillusions. C'est Brian Eno qui, en les découvrant à la fin des années 70, va vraiment porter leur succès. On l'a dit, cette école de Rhode Island, elle a beaucoup donné d'autres groupes plus tard, dans les années 90, justement une génération après celle des Talking Heads. C'est toujours cette école qui est à l'origine d'un mouvement qu'on appelle aujourd'hui un mouvement de revival de la New Wave, qui mêle à la fois musique synthétique, noise, approche visuelle, approche punk, approche dadaïste. C'est l'une des constantes, finalement, de ces groupes venus d'écoles d'art. Ils sont les premiers, sans doute, à penser à un univers qui irait au-delà de la musique, une scénographie extrêmement importante à l'époque, à une époque où, on le rappelle, les salles de concert n'étaient pas forcément outillées pour. C'est aussi à Rhode Island School of Design que se formeront des groupes comme The Lightning Bolt, un duo de basse et de batterie avec une très grande énergie hardcore qui va beaucoup marquer ce coin-là des États-Unis, ainsi que les géniaux Black Dice qu'on aime beaucoup. Il est donc des groupes qui se forment dans ces écoles d'art, qui continuent, qui développent une grande carrière et qui apportent finalement à la pop ou au rock qu'ils développent tous les apports justement qui leur viennent de leurs années d'études. D'autres groupes, eux, se formeront mais finiront par connaître une existence éclair. C'est le cas notamment d'un groupe qui est resté très confidentiel, qui relevait finalement de la pépite dédiée aux connaisseurs, Life Without Buildings, un groupe éclair, 3 ans d'existence, un seul album, avant que chacun retourne à ses affaires, marqué par la superbe chanteuse devenue plasticienne, Sue Tompkins, avec un titre The Lean Over qui est revenu en force en début d'année 2023, puisqu'elle a été reprise par TikTok, tant son début, sa basse, ses percussions sont extrêmement efficaces. Redécouvrons ensemble Life Without Buildings, trop éphémère et surbrillant groupe.
If I lose you, if I lose you, if I lose you, if I lose you, the huh, mmm. If I, baby, baby, baby. G-G-G, so G-G-G, you, if I lose you, the hunt, if I lose you in the street, if I lose you in the street, not if I lose you in the street, if I lose, don't miss that, if I lose you in the street, if I lose you in the street, hey, if I lose you in the street, G-G, come in, come in, come in, feel for you, kiss me, break my mind, close the door, blast you, break my mind, close the door, blast you, sound of you falling out, sound of you, if I lose you in the street,
j'ai commencé à beaucoup mixer, toujours en parallèle de mes études. Je gagnais mon argent de poche aussi comme ça. Et mes études, ça se passait pas très bien. J'étais brimée aussi parce que je rentrais pas dans le moule. En fait, dans les écoles d'art, il y a des modes. Il y a des moules aussi. Il faut, les directeurs doivent rendre des comptes. Et j'étais toujours à part et pas acceptée, pas encouragée. Et j'ai dit, OK, je gagne déjà un petit peu ma vie avec le DJing. J'avais fait mes comptes que si je continuais comme ça, je pouvais me payer une petite chambre en coloc, manger des pâtes, mais j'allais voir ce que ça donne. Et puis j'ai annoncé à mes parents que j'allais être indépendante sans leur aide. Ils m'ont jamais aidée après ça. Ils m'avaient dit, on t'aidera pas. Et je s'en remercie parce que je ne voulais pas qu'il m'aide. Mmh.
Miss Kittin dans Affaires culturelles en 2022 sur France Culture, la DJ et productrice qui a, on l'a entendu, totalement abandonné son parcours de d'artiste plasticienne alors qu'elle avait pourtant fait les Beaux-Arts de Marseille, puis l'École supérieure d'art de Grenoble et qui avait terminé un long cursus de design graphique à l'École nationale supérieure d'art et de design d'Amiens. On l'a entendu, pour elle, l'entrée dans la musique et dans le DJing a signé la fin de cette carrière de graphiste, alors que pour Sue Tompkins, la voix de Life Without Buildings qu'on entendait avant, ça a été plutôt l'inverse. Après une expérience éclair avec ce seul album du groupe s'appelait Any Other City et qui est un joyau qu'on vous invite à redécouvrir, elle a quitté le groupe pour reprendre une activité de plasticienne qui perdure. Beaucoup travaillent autour du papier, autour de la question des images visuelles liées au livre et qui n'a repris que très très ponctuellement d'être une pratique qu'on pourrait plus qualifier de sonore que de musicale. Ici, il s'agit de jouer dans la rupture. En France aussi, les écoles de beaux-arts, du design, en réalité, ont beaucoup, beaucoup apporté de protagonistes à la scène musicale. Mais à l'image de ce que disait Miss Kittin, on n'est pas tout à fait sur le même type de groupe que ce qui s'est vu aux États-Unis, puisque plutôt que d'investir frontalement la musique comme un lieu profondément arty dans lequel exprimer une vision artistique, on a dans un premier temps, dans les années 2000, en même temps qu'émerge Miss Kittin, des groupes qui se font plutôt justement une mission de revisiter une pop qui ne se prendrait pas au sérieux, qui serait plutôt sur le thème du décalage. Rien d'étonnant à ce qu'un groupe comme Salut, C'est Cool vienne justement des Beaux-Arts de Paris. Eux-mêmes se qualifiaient de techno-variété cyber troubadour dans l'esprit de Sexy Sushi. Et d'ailleurs, Sexy Sushi, tiens, est un duo marqué par la présence de l'artiste, chanteuse, musicienne Rebecca Warrior, qui est à la manette de plusieurs grands groupes et qui fut peintre.
Projet de vie, c'était effectivement plutôt la peinture, et j'ai échoué.
Ouais, pourquoi? Comment?
J'ai échoué pendant des années quand même, puisque j'ai été aux Beaux-Arts et j'ai quand même essayé de mener à bien ce projet. Et j'ai fait une redite de la même peinture pendant des années, donc une peinture de montagne qui est assez laide, et que j'en l'ai dit au fur et à mesure, parce que vraiment il n'y a pas d'amélioration dans ma peinture. Et puis, au parallèle aux Beaux-Arts, j'étais quand même beaucoup dans le studio de son, je faisais de la musique, donc j'ai travaillé les deux en même temps, et Dieu soit loué, il y en a un où j'avais plus d'affinité quand même.
T'as donné des cours aussi de peinture,
par exemple. Ouais. Non, j'ai vraiment assisté. je faisais déjà des concerts à l'époque, donc je faisais déjà des concerts de Sekki Pushi ou de Mansfield The Weeknd. Donc j'en garde un souvenir assez ouaté parce que j'arrivais le lundi vraiment avec un œil là, l'autre ici. Et je dois avouer que je mettais des 18 aux élèves juste pour qu'ils taisent. Il y en a un qui m'avait vu en concert et pour pas qu'il me fasse de chantage, je lui ai mis 20 toute la nuit. Ouais.
Tu as fait un rendez-vous avec lui en lui disant bon, voilà comment ça va se passer.
Il m'a dit, en fait, il est venu me voir après le concert en me disant hey, madame, vous ici. Et après, je lui ai mis des bonnes notes et on s'est entendu comme ça, tacitement.
Calvin Klein, il me rappelle encore ses souvenirs lointains. Depuis ma femme est morte et je peux me saouler au vin de l'assassin. J'ai tué ma bien-aimée, implanté deux couteaux n'aurait pas suffi. Il m'a fallu voir grand pour lui ôter la vie. Si je vais mieux maintenant, je ne me le demande pas, mais j'ai défoncé ses dents pour qu'on ne me retrouve pas. Cauchemar. Je ne regrette pas mon acte, je regrette mon état. Je pensais m'en remettre, mais en fait je ne peux pas. Un meurtre sur la conscience, ça ne s'oublie pas comme ça. Alors je tourne en rond avec mon brave Victor. On a pété les plombs, on tue les chiens dehors. Si je vais mieux maintenant, je ne me le demande pas. Mais j'ai défoncé ses dents pour qu'on ne me retrouve pas.
Julia Lanoé, que vous entendiez interviewée par le magazine Trax, qui revenait sur sa carrière de peintre avortée, ratée, ou en tout cas laquelle elle a mis fin au profit d'une carrière musicale, qui pour nous marque pourtant la marque de cette ambition première, tant la multiplicité, la pluralité des projets musicaux dans lesquels Julia Lanoé est impliquée, raconte quelque chose. Peut-être de la peintre qu'elle n'a pas été. Vous avez entendu Sekki Pushi, Tu dégages, titre de 2009. Vous entendiez là Pour oublier, Je dors, extrait d'un album de l'autre formation des débuts de Julia Lanoé, qui, malheureusement, formation merveilleuse, Mansfield Tia, qui a mis un point final à sa carrière il y a quelques mois pour notre plus grand malheur. C'est toujours intéressant d'entendre que Tu dégages et Pour oublier, Je dors sont deux morceaux écrits, pensés par la même artiste au même moment, ce qui raconte bien peut-être une ambition de peintre avec ces différents paysages qui coexistent, puisque Julia Lanoé est aussi engagée dans un troisième projet comme Promat qui continue. Les artistes, les jeunes élèves d'écoles d'art qui se sont ensuite lancés dans la musique ont effectivement parfois investi ce champ-là face à une forme d'échec dans leur première vocation. C'est le cas aussi d'une artiste que l'on connaît sous le nom de PR2B, qui elle ne vient pas d'une école d'art plastique ou de beaux-arts, mais qui a été formée au cinéma à la FEMIS. La FEMIS, la grande école de cinéma française, qui racontait dans l'émission à Marie Richeux dans Par les temps qui courent, comment l'écriture de chansons s'est imposée presque contre le cinéma, car elle s'y sentait mieux et y racontait mieux le monde qu'au cinéma.
L'écriture de chansons, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis très longtemps. Je crois qu'aussi c'est quelque chose que j'ai toujours un peu gardé pour moi. Depuis très longtemps, depuis le collège, j'écris des chansons qui ne sont plus du tout, qui sont pas celles que j'écris maintenant. Mais finalement, quand je suis sortie de l'école, la dernière année de réalisation, elle est quand même très intense, qu'on doit finir d'écrire un long métrage, on doit réaliser un court métrage. Et ce qui est surprenant, c'est que l'été de ma sortie, j'ai écrit Océan Forever et je me suis dit, merde, c'est la chose la plus cinématographique que tu as créée. Et à ce moment-là, c'est le moment où j'ai décidé de la sortir, de la faire entendre. Et je crois que ça, je crois assez aux signes et aux endroits de sincérité. Et le cinéma, il est toujours là. Et j'aimerais un jour, poursuivre ce qui a été la raison pour laquelle j'ai fait la FEMIS. Mais je crois que là, l'endroit le plus intime, le plus musical et le plus cinématographique, c'est mes chansons et cet album.
Et hier soir, j'ai fui au milieu de la soirée. Tu étais là avec tes amis branchés et il faisait noir. Dans mes yeux, il est les yeux qui brillaient de l'assurance de ceux qui jouissent d'une place d'importance en lice pour l'espoir de n'avoir plus haut qu'un cauchemar. J'avais ma couleur de spleen et vert de thym.
Peinture, c'est pas très populaire hein, comme médium, on va dire. C'est la musique, c'est beaucoup plus populaire. C'est une carrière que tu construis d'artiste plasticien ou enfin, artiste contemporain. En musique, tu peux faire un tube, tu vas signer un contrat, c'est cool, et puis après tu fais plus rien si tu veux. Enfin, années 80, genre. Mais après, en peinture, tu peux pas faire un tube.
Yoann Papakonstantinou, dont vous entendez l'introduction de son nouvel album baptisé Premier Degré, avec évidemment au cœur de cette introduction les instruments grecs auxquels il rend hommage dans ce qu'on pourrait qualifier d'une pop R&B inspirée par Lorient. Yoann Papakonstantinou, qui poursuit en parallèle de sa très fertile et géniale carrière de musicien, brillante carrière de peintre, lui qui a été formé à la peinture, qui une peinture qui se veut à la croisée, à la lisière de la peinture de la Renaissance et de l'esthétique du jeu vidéo qu'il admire beaucoup. Et cette double carrière, on ne peut pas faire de tube en peinture, mais on peut en faire en musique. On a hâte de découvrir plus en profondeur ce prochain deuxième album. C'est la fin de cette émission. La série musicale de cette semaine a été préparée, comme toujours, par Lou Quevauvier. Elle est réalisée par le merveilleux Colin Gruel et mise en onde par Ruben Carmazine. Merci aux équipes de Lina. La semaine prochaine, on se retrouve enfin à 17h pour une émission d'une heure. En attendant, vous retrouvez comme toujours la série musicale en podcast sur toutes les bonnes applications, mais on préfère toujours celle de Radio France.
Les paroles en l'air font des accidents.